Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits insolites. Connaissez-vous Eutyque? Si vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, vous avez probablement remarqué son histoire parce qu'elle est assez abracadabrante. On va voir l'effet soporifique de la prédication de Saint Paul sur un jeune homme qui va littéralement mourir d'ennui. Mais vous verrez que l'histoire se termine quand même d'une façon positive. Suite à notre dernière émission au sujet de la mort d'Ananias et de Saphira, un autre récit dans le livre des Actes des Apôtres, Arthur nous a écrit « Merci pour vos émissions à la fois inspirantes et intrigantes. Dans le livre des Actes au chapitre 9, c'est Ananias qui guérit Paul. Est-ce le même Ananias, marié à Saphira, qui ensuite meurt après avoir menti? Il y a dans le livre des Actes des Apôtres plusieurs personnes qui portent le nom d'Ananias. Ça semble être un nom grec assez commun. D'abord, comme le mentionne Arthur, il y a l'époux de Saphira, dont on a parlé à la dernière émission, au chapitre 5, et on se rappelle, c'est un couple, Ananias et Saphira, qui vont mentir sur une question d'argent, et bon, ça introduit une division dans la communauté chrétienne qui, à l'époque, devait avoir un seul cœur, une seule âme, et tout ça s'envole avec le mensonge d'Ananias et de Saphira. Ananias, finalement, va mourir en entendant le jugement de Dieu prononcé par Pierre, et sa femme va subir le même sort. Donc, le premier Ananias meurt. Après sa mort, un peu plus loin, au chapitre 9, comme Arthur l'évoque, il y a un deuxième Ananias dont on entend parler. C'est un juif chrétien de Damas qui est envoyé par le Seigneur dans la rue droite pour imposer les mains à Saint Paul après la conversion de Saint Paul. Alors, c'est écrit qu'il est là pour qu'il retrouve la vue et soit rempli d'Esprit Saint. C'est à Damas que Paul va commencer sa carrière de prédicateur enseignant Jésus-Christ dans les différentes synagogues dans les villes de la région. Il y a même un troisième Ananias. Lui, il se trouve au chapitre 23 et 24 des Actes des Apôtres. On dit qu'il est le fils de Nébédée, ce troisième Ananias est nommé grand prêtre vers l'an 47. On le voit lors de la comparution de Paul devant le Sanhédrin à Jérusalem. Il fait frapper Paul. Paul le qualifie de muraille blanchie et lui annonce qu'il sera frappé à son tour par Dieu. On retrouve ensuite ce grand prêtre Ananias à Césarée, où il va porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. Alors, comme vous le pouvez voir, on a trois Ananias qui sont bien des personnes différentes, alors ils n'ont aucun lien entre les trois autre que leur nom. Merci donc à Arthur pour cette question qui éclaircit un petit peu tout ça. Si vous avez comme lui des questions, des commentaires, si vous voulez partager vos découvertes avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous à auditoire@radiovm.com. En introduction, j'ai dit qu'Eutyche allait mourir d'ennui. Voici les récits préférés de ceux qui, comme mon fils, trouvent que la messe est parfois monotone. Peut-être nous permettra-t-il d'être plus indulgents à l'égard de nos prêtres. Les homélies de saint Paul semblent bien avoir la puissance d'un somnifère. On écoute le récit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20, les versets 7 à 12.
Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, adressait la parole aux frères et il avait prolongé l'entretien jusque vers minuit. Les lampes ne manquaient pas dans la chambre haute où nous étions réunis. Un jeune homme nommé Eutyche, qui s'était assis sur le rebord de la fenêtre, a été pris d'un sommeil profond, tandis que Paul n'en finissait pas de parler. Sous l'emprise du sommeil, il est tombé du troisième étage et quand on a voulu le relever, il était mort. Paul est alors descendu, s'est précipité vers lui et l'a pris dans ses bras. « Ne vous agitez pas, il est vivant !» Une fois remonté, Paul a rompu le pain et mangé, puis il a prolongé l'entretien jusqu'à l'aube et alors il s'en est allé. Quant au garçon, on l'a amené vivant et ça a été un immense réconfort.
C'est quand même incroyable. Paul parle si longtemps que quelqu'un en meurt. Heureusement, l'histoire se termine bien avec le retour à la vie du garçon. Mais Paul continue quand même, après, de prêcher jusqu'à l'aube. Alors, c'est toute une nuit de prédication dans le fond. D'abord, notons que l'événement a lieu le premier jour de la semaine. Ça, c'est le jour où les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, le dimanche. Pour les Juifs, le jour commence au coucher du soleil. Nous sommes donc au samedi soir, au début du repas du Seigneur. Alors, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, mais ce dimanche-là commence le samedi soir dans la conception juive du jour et de la nuit. Le repas du Seigneur qui est partagé, c'est l'ancêtre de nos célébrations eucharistiques. On en parle souvent dans les Actes des Apôtres. Il y avait une fraction du pain qui était accompagnée généralement d'un repas partagé. Alors, chacun apportait quelque chose et on partageait ça. Il y avait des prières, une prédication et un entretien. C'est là qu'arrive le témoignage de saint Paul. Faut pas oublier que pour les premiers chrétiens, il n'y avait pas d'église, pas de bâtiment réservé spécifiquement au rassemblement. Les croyants, les croyantes se réunissaient dans des maisons privées. Alors, si telle personne avait la plus grande maison dans la ville, bien, tous les chrétiens allaient se rencontrer chez cette personne-là qui pouvait les accueillir. Dans le récit qu'on a, la rencontre a lieu dans la chambre haute. C'est comme ça qu'on dit où ils sont rassemblés, la chambre haute. C'est probablement l'une de ces maisons. On retrouve aussi un autre endroit désigné chambre haute, peut-être que c'est la même place, au début des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 13, au moment où les apôtres, Marie et les frères de Jésus sont rassemblés pour prier. Et on a aussi ça dans l'Évangile de Luc, si on recule un peu en arrière, lors du dernier repas de Jésus. Alors là aussi, on annonce dans l'Évangile de Luc que c'est dans la chambre haute qu'ils se rassemblent pour faire ce repas-là. Est-ce que c'est la même place? On ne le sait pas. Mais en tout cas, on est dans la chambre haute, probablement chez un des chrétiens, pour partager le repas en mémoire de Jésus. Et Paul est là, il fait un long entretien, et pendant cet entretien, un jeune homme, qui s'appelle Eutyche, va s'endormir et tomber de la fenêtre pour mourir. Le récit ne s'éternise pas sur les détails et l'horreur de l'accident. C'est pas ça qui est important. Il va plutôt mettre sur l'action de Paul qui descend, se jette sur le jeune homme, le prend dans ses bras, puis, selon une traduction littérale, il dit « son âme est en lui », une façon de dire qu'il est ressuscité. On peut mettre en parallèle cette résurrection qui est opérée par Paul avec une que Pierre va faire aussi, celle de Tabitha, qui est faite dans les Actes au chapitre 9, les versets 36 à 43. Alors, c'est Pierre qui va ressusciter Tabitha dans ce récit-là. Et dans les deux récits, on voit que les apôtres, Pierre et Paul, sont dans la continuité de l'action de Jésus. Alors, eux aussi vont accomplir des résurrections comme Jésus l'a fait, dont la plus fameuse, c'est celle de Lazare. On connaît ce texte-là. Puis, plusieurs aspects du texte qu'on a lu sur le retour à la vie d'Eutyche nous rappellent une résurrection en particulier, la fille de Jaïr, dans Marc chapitre 5, verset 39. Alors Jésus lui a redonné la vie et il y a plusieurs éléments dans ce texte-là qui font écho un texte à l'autre. Alors, ça, on ne lira pas le texte de Marc, mais vous pourrez aller le lire par vous-même si ça vous intéresse. Chapitre 5, verset 39, la résurrection de la fille de Jaïr. Il y a des liens à faire avec la résurrection d'Eutyque dont on vient de lire. Donc, la résurrection d'Eutyque montre que Paul est bien un apôtre de Jésus ressuscité. On se rappelle que Paul n'a jamais rencontré Jésus avant qu'il meure, mais il va vivre une conversion, il va voir le Christ ressuscité et va changer sa vie complètement. Et après ça, il va dire qu'il est un apôtre puisqu'il a vu ce ressuscité-là, qu'il l'a envoyé en mission. Et ce texte-là vient comme appuyer ceci en disant que oui, Paul peut faire des miracles et même redonner la vie tout comme le faisait Jésus. C'est donc un disciple digne de Jésus. Moi, en tout cas, je crois que c'est la fonction de ce récit qu'on aborde. Si on fouille un peu le reste de la Bible, on retrouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament une dynamique semblable entre les prophètes Élie et Élisée. Élie, c'était le maître, il accomplissait des actes de grande puissance, et après ça, Élie a pris sa place et a continué sa mission. Et on va s'arrêter tout à l'heure sur un texte en particulier, c'est une résurrection que va opérer Élie. Hein, c'est rare qu'on parle de résurrection dans l'Ancien Testament où on n'associe pas ça à... Mais il y a un texte là-dessus qu'on va lire tout à l'heure. Alors, on va donc voir le lien entre les textes d'Élie et d'Élisée et celui qu'on vient de lire par rapport à Paul et Eutyque. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique pour aérer notre esprit. Vous êtes dans l'émission « Les récits insolites de la Bible » avec Sébastien Daune, bibliste. Aujourd'hui, nous avons lu le récit de la mort et de la résurrection d'Eutyque. Avant la musique, on a vu que ce texte a pour fonction de montrer que Paul, c'est bien un apôtre de Jésus, puisqu'il peut lui aussi accomplir des miracles, même redonner la vie, tout comme le faisait Jésus à l'époque. Ce même rapport entre maître et disciple, dis-je, se trouve dans l'Ancien Testament avec Élie et son disciple Élisée. On va d'abord écouter le récit d'une résurrection qui est opérée par Élie, qui ressemble étrangement à notre récit, pour ensuite voir que son disciple Élisée fera lui aussi ce genre de miracle. Alors donc, on va écouter un texte qui se retrouve au Livre des Rois, le premier Livre des Rois, au chapitre 17, les versets 17 à 24.
Voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils s'en allèrent tous deux. 50 d'entre les fils de prophètes allèrent se placer en face du Jourdain à distance d'Élie et d'Élisée qui s'arrêtèrent tous deux près du fleuve. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Comme ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Il dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne se sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et criait, « mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il cessa de le voir. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rive. Il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie en frappant les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux. Elles se séparèrent et Élisée passa. Les fils de prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu d'en face, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. »
On voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont communs entre les deux récits. Dans les deux cas, il s'agit d'un garçon qui meurt, d'une chambre haute, il y a un homme de Dieu, il y a un contact physique avec l'enfant mort et cet homme de Dieu, et l'enfant finit par revenir à la vie. L'action d'Élie vient confirmer son identité d'homme de Dieu et sa mission de transmettre la parole de Dieu aux autres. Et à la mort d'Élie, son rôle d'homme de Dieu, de prophète, va être transmis à Élisée, qui va prendre le manteau d'Élie et poursuivre sa mission. En 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37, ça va être au tour d'Élisée de redonner la vie à un garçon mort. Dans ce récit, on va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez aller le lire par vous-même. Je vous rappelle, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 4, les versets 8 à 37. Dans ce passage-là, on voit qu'il y a plusieurs points en commun avec le passage qu'on vient de lire à propos d'Élie. Et ce passage-là confirme Élisée comme un successeur d'Élie puisqu'il peut accomplir les mêmes prodiges. Donc, si on revient à notre récit autour d'Eutyque et de Paul, bien, c'est la même chose pour Paul que pour Élisée. En ressuscitant une personne, il se révèle comme un des successeurs de Jésus. La mort d'Eutyque, c'est pas juste un accident. Ça devient l'occasion de manifester les merveilles de Dieu. Et ces merveilles se produisent dans une petite communauté par l'action de Paul, qui est décrite comme ayant la même puissance que celle de Jésus, d'Élie, d'Élisée. Alors, c'est pas pour rien que ces textes se ressemblent. À quelque part, ceux qui vont composer les textes dans le Nouveau Testament, probablement qu'ils connaissaient ces traditions, ces histoires reliées à Élie et Élisée, et ils vont reprendre ces thèmes-là pour nous faire connaître et comprendre le lien entre Jésus et Paul. Bon, une question qu'on se pose souvent quand on lit des textes de la Bible, c'est est-ce que ça s'est vraiment produit comme ça? Moi, personnellement, j'en doute un peu. Je vais vous donner 3 arguments, mais ensuite, ça sera à vous de décider. Alors, premièrement, il n'y a aucun autre texte dans le Nouveau Testament qui va parler de la résurrection d'Eutyque. Donc, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas appuyer, prouver ou quoi que ce soit avec un autre texte. On n'a que ce texte dans les Actes des Apôtres. Deuxièmement, le récit a été... c'est sûr qu'il y a des éléments invraisemblables dans ce récit-là qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Alors, entre autres, le fait de ressusciter, de revenir de la mort, c'est quand même assez fort. Donc, il porte une symbolique très forte. Et c'est mon troisième argument, ça, c'est de voir que ce récit-là a une symbolique très forte. C'est pas pour rien, c'est pas juste un détail, il est là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc moi, personnellement, je doute que ça se soit passé comme ça. Peut-être, mais on n'en sait rien. Par contre, c'est à chacune d'entre vous de vous en faire une idée. Qu'en pensez-vous? Vous pourrez peut-être m'écrire pour me le dire. Comme d'habitude, j'aime bien terminer l'étude d'un texte avec des pistes de réflexion pour voir comment il peut nous donner à penser aujourd'hui. Bon, certains vont appeler ça l'actualisation du texte. Premièrement, je suis père. Alors, en tant que père, je me demande si c'était vraiment sage de permettre à un enfant d'assister à une réunion de prière jusqu'à tard dans la nuit et surtout de l'installer sur le bord de la fenêtre. Sa place n'était pas plutôt chez lui, dans son lit? Et ça me permet de poser la question, est-ce qu'il faut faire passer les choses spirituelles avant les besoins du corps, les nôtres et ceux de nos enfants? La foi en Dieu, c'est quand même pas une assurance qui couvre tous les risques. Bon, mais on peut dire que le récit pose pas cette question-là parce que ça tarde pas vraiment aux détails, puis l'important, c'est sa résurrection. Le but du récit, c'est de montrer que les miracles de Jésus se poursuivent dans l'action de Paul. Si on suit cette logique-là, on est en droit de se poser la question, de se demander si les miracles comme celui-là, qui se produisaient avec les disciples de Jésus, est-ce qu'ils pourraient se produire encore aujourd'hui? Parce qu'on est supposé d'être nous aussi des disciples de Jésus, de continuer sa pratique. Mais pourtant, les guérisons spectaculaires, les résurrections, ça fait quand même pas partie de la vie quotidienne ou de la mission de l'Église actuelle. Moi, ce que je propose, c'est que le récit pourrait nous inviter à rester ouverts. À rester ouverts afin que les disciples, par qui le Christ agit encore dans le monde, puissent nous rejoindre de différentes façons. Mais peut-être que Dieu agit à travers nous, d'une façon plus subtile que ce dont le récit écrit. Alors, il faut être à l'écoute de ces façons dont Dieu nous parle, à travers toutes sortes de choses de la vie de tous les jours. Par exemple, je travaille dans une école, et lorsqu'un éducateur va redonner le goût de vivre à une adolescente qui est déprimée, qui est en train de nourrir des idées suicidaires, ben peut-être qu'à ce moment-là, il est l'instrument de l'action de Dieu pour aujourd'hui. Il redonne la vie, il redonne le goût de vivre. D'une certaine façon, c'est une petite résurrection. À notre tour, comme Paul, Élie, Jésus, on peut aussi devenir des instruments de Dieu, même si ça ne fait pas de nous des thaumaturges. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que le récit de la mort-résurrection d'Eutyque vous a intéressé et vous a aussi donné à réfléchir. Vous pouvez lire les récits et les réflexions abordées dans notre émission dans un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, écrivez-nous. Nous prendrons un temps au début de la prochaine émission pour vos réactions. Par exemple, vous pouvez me dire si vous pensez qu'un tel récit s'est vraiment passé comme ça ou non. Alors, qu'est-ce que vous en comprenez? Notre adresse, auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, ça va être un peu spécial, c'est la dernière de cette série d'émissions. Mais oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, pour la dernière, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu spécial. On va s'attarder et lire peut-être le livre le plus insolite de la Bible. Le livre de l'Apocalypse. Alors, manquez pas ça, on va aller fouiller là-dedans, voir qu'est-ce qu'il y en est au juste. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que toutes sortes de destructions? On va lire ça et on va s'en parler. En terminant, merci à Marie Laferrière pour sa lecture de la Bible. Merci aussi à Alain Primo, notre fidèle technicien. Enfin, merci à chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.